En ce 9 mai, c'est une émission spéciale que nous avons à Rencontre spirituelle. Intitulée « Pourquoi vivre ?», j'ai pensé faire une série d'émissions, en fait 4 émissions durant ce mois-ci, le 9, le 14, le 22 et le 28, pour aider pendant les vacances les grands-parents, les parents et les amis à répondre. C'est écrit dans la première épître de Saint-Pierre, « Soyez toujours prêts ». À répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande compte de l'espérance qui est en vous. Et on ne sait pas toujours quoi répondre devant nos jeunes, devant des gens qui sont distanciés. Ils nous demandent pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous sommes catholiques. Alors aujourd'hui, l'émission « Pourquoi vivre ?» Et nous passerons petit à petit à d'autres sujets comme « Qui sommes-nous dans cet immense univers ?» et « Qu'est-ce que l'homme ?» qui donc est Dieu, puis etc. Je m'inspire du Père Lelotte. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ce qui manque aux hommes, ce qui manque aux femmes, ce qui manque aux grands-parents, aux parents et à bien des gens, c'est de savoir d'abord pourquoi ils vivent. Hein. Ils peuvent être de très bons chrétiens, mais ils ne savent pas pourquoi vraiment. Hein. Ils ne peuvent pas l'expliquer juste. Certains peuvent déclarer absurde aussi la recherche d'une réponse. Hein. Le problème est là. Bon, c'est angoissant, c'est torturant. On peut se morfondre les méninges. Mais ça arrive qu'il y a des heures de douloureuses dans l'existence. Il faut se poser des questions. Parce qu'on va pas comme ça impunément tout au long de sa vie à l'encontre de la destinée que Dieu a inscrite. Au plus intime de notre être. Je vous ai déjà dit que Jean Guiton, ce grand penseur chrétien qui était ami de Paul VI, disait que la terre était une immense fabrique de saints. C'est ça, au fond, le but de la vie. Les hommes, en fait, les femmes, n'auront de repos que le jour où ils auront compris. Pour quelle raison? Ils doivent vivre et mourir. Et ce jour-là, ils auront établi, on peut dire, dans leur existence, là, un grand courant irrésistible de foi qui illuminera leurs amis, leurs voisins, les leurs. Et leur foi sera rendue si belle qu'elle y aura au cœur de cette foi une certitude, une espérance, un amour qui va leur donner de s'engager allègrement dans la vie. On en voit de temps en temps, on en rencontre de ces catholiques, et c'est merveilleux de les voir. Cette raison de vivre à laquelle aspirent ceux qui réfléchissent, je me demande des fois s'il n'y a pas que le catholicisme qui la leur fournit pleinement, puis lui seul. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. Il faut bien comprendre aussi ce qu'est le catholicisme, puis en vivre. Il est tellement attaqué de tous côtés pour des raisons accessoires. Hein. Et on en fait une image caricaturale. On déforme ce qui est dit. Et c'est tragique, à mon avis. Trop de chrétiens ignorent jusqu'aux éléments les plus importants de leur foi pour comprendre ce qu'elle est. Ils n'ont pas de solution à leur vie. Et pourtant, leur religion apporte des solutions aux problèmes de l'existence, mais ils ne les connaissent pas. Trop de chrétiens aussi affadissent, il me semble, la vie chrétienne. Ils la ramènent à quelques pratiques routinières, hein, sans prise sur la vie réelle. Quelqu'un me disait, il y a à peine 24 heures, je crois, un peu plus, que l'engagement dans la société, dans les questions politiques, c'est inutile pour un catholique. Il suffit de réciter son chapelet. Étrange. Trop de chrétiens se découragent devant les coups acharnés que nous portent les ennemis de l'Église. Ils se découragent, ils veulent plus lutter. Comme si le Christ ne nous avait pas averti que nous aurions à lutter. Voyons donc, il nous l'a dit, c'est dans l'Évangile. Comme si, d'autre part, les siècles de vie chrétienne profonde, là, dont je vous parle, en parlant des saints, Ça n'avait pas coïncidé avec les siècles d'épreuves et de persécutions. Pensez à la bienheureuse Julienne de Norwich. Pendant qu'elle vivait, il y avait 2 ou 3 papes. Les seigneurs et les princes se battaient. Il y avait des épidémies épouvantables. Plus de la moitié de la population de la ville de Norwich où elle habitait est mort, etc. Trop de chrétiens encore critiques aussi. Ou à bon droit parfois, je reconnais. Hein? Telle ou telle manière de voir ou d'agir dans l'Église. On a le droit quand même de critiquer, on n'est pas des enfants. Mais il y a une façon de le faire. Hein? Et parfois, ben, on oublie que si l'Église est divine dans son origine, elle a été confiée par Dieu quand même à des mains humaines, et tout d'abord au pape et à nos évêques. Mais elle a été confiée à nous tous qui sommes baptisés aussi, et nous avons des responsabilités. N'ayant qu'une vie partielle de la doctrine catholique souvent, là, les chrétiens s'hypnotisent hein, sur des questions de détail. Ils laissent échapper le meilleur de leur foi et de plus, ils vont cacher là, à ceux qui cherchent la vérité sur la vie, le vrai visage du catholicisme. Alors ils déblatèrent, ils disent toutes sortes de choses négatives, et ils ne savent pas quoi dire de positif, et c'est pourquoi il faut s'efforcer de dégager, il me semble, ensemble, les lignes maîtresses de la solution catholique du problème de la vie. Il faut serrer la réalité d'aussi près que possible. Et puis, il faut montrer combien le catholicisme est adapté. Combien cette grande religion fondée par Jésus-Christ répond à ce besoin actuel des âmes en quête d'un sens à leur vie, pourquoi vivre, qui sont en quête aussi d'un engagement, pourquoi s'engager dans cette vie, est-ce qu'on ne devrait pas rester simplement assis à regarder la télévision, à jouer au golf, à se promener, à faire les zombies, quoi. Il faut répondre au désir de tant de fidèles et même d'incroyants qui souhaitent avoir une vue un peu rapide peut-être du catholicisme. Alors je vais essayer de le faire ce mois-ci. Aux croyants, il faut apporter une joie nouvelle de vivre et de vivre où, comment, dans l'intimité du Christ. C'est là qu'est la vie du chrétien, vivre dans l'intimité du Christ. Il faut aussi aider les croyants à être davantage encore des témoins dans le monde, être des témoins. On ne peut plus se taire. Il y a une limite au bon sens. Puis aux incroyants, j'espère que s'il y en a qui m'écoutent et qui vont m'endurer, j'espère faire disparaître un peu dans leur cœur certains malentendus. Et j'espère éveiller un peu dans leurs âmes. Parce que c'est plein d'incroyants sincères. J'en connais plusieurs qui sont bien plus sincères que bien des catholiques que je connais. Mais je voudrais faire jaillir une large sympathie, me semble, pour cette doctrine chrétienne catholique qu'ils connaissent trop peu. J'aime autant leur dire que, pour écarter toute erreur de perspective, qu'il ne s'agit pas de démontrer là, la solution catholique, c'est un peu trop compliqué pour le faire en quelques émissions, mais simplement de la montrer. Hein. Il y a une parole de Jacques Rivière, je vous avais déjà consacré une émission à Jacques Rivière, il y a déjà un bon bout de temps, le grand converti, dans ses notes de captivité, n'est-ce pas, il exprime très exactement ce que je voudrais faire. Il dit, plus intéressant que de démontrer la foi chrétienne, ce serait d'induire en tentation pour y faire tomber, de la décrire avec assez de détails, d'en faire apparaître la merveilleuse cohésion avec assez de force pour que l'incroyant soit saisi de vertige et n'ait plus rien à faire que de s'y précipiter et d'y trouver le bonheur. Alors, c'est pas un traité d'apologétique là, qu'on va faire ce mois-ci. Hein. La véritable apologétique moderne, c'est-à-dire le désir d'amener à la foi chrétienne les autres, ça consiste à faire voir, il me semble, dans la doctrine catholique, la plus belle des doctrines de vie, et puis approuver par là son origine divine. Il y en a d'autres très belles. Je crois bien que la grande doctrine orthodoxe, qui est la doctrine sœur de l'Église catholique, est absolument superbe. Puis, combien d'anglicans, combien même de protestants, combien de... même de musulmans, etc., ont des doctrines et des choses très belles à nous dire et à nous enseigner. Mais la doctrine catholique, il me semble, c'est de la plus belle. Quand l'apôtre Philippe, vous souvenez, a appris à Nathaniel, c'est dans Saint Jean, au chapitre, au premier chapitre, au verset 45, quand il apprend à Nathaniel qu'il avait trouvé le Messie, Jésus, fils de Joseph de Nazareth, Nathaniel répond, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Alors, Philippe, vous vous souvenez, il n'a qu'un argument. « Viens et vois. » Il faut regarder. Il faut écouter. Et Nathanaël, dit le texte de Saint Jean, « ayant connu le Christ, crut en lui et l'aima. » Ah, oh, ça, c'est, le verbe est important. « Et l'aima. » Il l'a aimé. Le Christ est tout aimable. Puis ainsi de l'Église, me semble, il suffit de voir de plus près la doctrine qu'elle enseigne pour croire en elle et l'aimer. Mais encore faut-il la voir, la vraie doctrine de l'Église, pas n'importe quoi. Il n'est pas possible de livrer en quelques minutes la vie absolument surabondante, à mon sens, du catholicisme. Et plus on approfondit cette vie, plus on en découvre des aspects nouveaux. Comment serait-il autrement? Puisque la source de cette vie, c'est le Christ, en qui se trouve la plénitude de la vérité et de la vie. Oh, les gens qui ne croient pas au Christ considèrent ces paroles comme des paroles inutiles, hein, quand on dit que c'est en lui que se trouve la plénitude de la vérité et de la vie. Et pourtant, c'est bien vrai quand on le sait, quand on l'a expérimenté, quand on la vit, cette parole. De plus, comment traiter tant de problèmes, parfois très épineux, sans commettre des inexactitudes de détails? C'est pas facile. Il faut y aller mollo. C'est une chose bien curieuse que de vivre. Pourquoi vivre? C'est mon assentiment. Bah, je vis. Je suis installé, depuis quelques années déjà, sur une immense machine ronde qu'on appelle la Terre. Puis j'adhère à cette terre comme une mouche à un globe. Puis de l'autre côté, là, aux antipodes, dans la région de l'Océanie, l'Australie, etc., il y a d'autres êtres humains qui vivent la tête en bas sans ressentir le moindre malaise. Puis j'apprends que cette boule qui me porte n'est soutenue par rien, suspendue à rien, c'est un immense vaisseau spatial. Et je sais que cette boule fait un tour complet sur elle-même en un jour, ce qui lui donne une vitesse tangentielle d'environ 1000 km à l'heure. Savez-vous qu'elle tourne à 1000 km à l'heure? C'est rapide, ça. Puisqu'elle tourne en 24 heures, hein, puis elle a 25 000 km de tour à peu près. Je sais qu'elle décrit autour du Soleil une orbite aussi, à une vitesse de 108 000 km à l'heure. C'est une rapidité insensée. Je reviens donc à cet univers dans lequel nous sommes plongés sur un vaisseau spatial, immense, d'une organisation absolument phénoménale, et puis que ce vaisseau spatial, notre Terre, décrit autour du Soleil, là, une orbite à la vitesse, comme je vous ai dit, de 108 000 km à l'heure, et ça depuis 4 milliards et demi d'années. Sans erreur, s'il fallait qu'il y ait une erreur, ce serait la fin. Mais je sais que le Soleil lui-même entraîne avec lui des centaines de satellites dont la Terre se dirige vers Vega, dans la constellation de la Lyre, à la vitesse de 70 000 km à l'heure. Que les 3 000 ou 4 000 étoiles que je vois le soir immobiles, quand il fait beau, mais sont soumises, elles aussi, à des vitesses vertigineuses et sont entraînées dans une espèce de chevauchée à travers l'espace. À l'encontre de mes impressions, bien rien n'est en repos dans l'univers. On a l'impression que tout ça ne bouge pas, mais au contraire, le monde entier, c'est une immense salle de danse, si on veut, où des danseurs endiablés tourbillonnent, sans jamais reprendre leur souffle, ça n'arrête pas. Je suis désespérément accroché à un danseur qui est notre tête, Avec lui, je tournoie, et demain, à la même heure, nous n'aurons fait ensemble, certes, qu'un tour sur nous-mêmes. Nous aurons parcouru des centaines de milliers de kilomètres dans les espaces interstellaires. Et le plus curieux de l'histoire, c'est que je ne ressens rien, c'est vraiment très bizarre. Et chaque jour, sur mon globe, je vis, je remue, bras et jambes, et je mange, je déplace quelques objets. Il m'arrive d'en casser un de temps en temps. Puis, je me couche. Alors là, je perds connaissance pendant quelques heures, tandis que dans l'autre hémisphère de la Terre, là, de l'autre côté, la moitié de l'humanité qui voit le soleil se lever. Mais cette moitié de l'humanité s'étire, se lève, mange, travaille, s'amuse, puis ils vont se coucher quand je me lèverai. Puis demain, après-demain, le même manège, la même comédie qui va recommencer. C'est drôle. Je vis parce que dans ma poitrine aussi, il y a mon cœur qui bat. J'ai commencé à battre 19 jours après ma conception dans le sein de ma mère. C'est un muscle en activité nuit et jour, auquel je n'ai pas donné l'impulsion. C'est pas moi qui l'ai fait partir. C'est pas possible, par un acte de ma volonté, du moins, d'arrêter le mouvement. Paraît-il qu'il y a des fakirs qui réussissent ça, mais c'est bien surprenant. 100 000 fois par jour, ce muscle dans ma poitrine se crispe et se détend. Je l'entends parfois quand je suis couché, mon oreille l'entend. Et dans ce temps-là, je m'inquiète, je me dis tout à coup, s'il s'arrête, est-ce que j'ai fait mon testament comme il faut, etc. Est-ce que je suis prêt pour la grande rencontre? Et qui donc l'a mis en branle? Et comment mon cœur peut-il battre comme ça? C'est une chose curieuse aussi. Hein? Il m'arrive de ne pas être là où je suis. Qu'est-ce que je veux dire? Je me sens, bon, je sais que je suis, disons, dans mon bureau, dans un endroit déterminé. Mais je suis en train de lire, je prépare mes émissions, et je suis rendu en Angleterre avec Julienne de Norwich dans le Norfolk. Mon esprit s'évade. C'est extraordinaire, cet esprit, tout en étant dans le présent, circule dans le passé. Puis, il va même dans l'avenir. C'est plutôt étrange. Et vraiment, pourquoi tout ça? Pourquoi être occupé à vivre? Pourquoi vivre? Et si je me réveillais dans le fauteuil d'un train où j'aurais été déposé, là, sans que j'aie voulu, puis je demanderais aussitôt à quelqu'un pourquoi on m'y a mis, puis quel est le terme de mon voyage, où est-ce qu'on s'en va? Et quand il s'agit de ma présence dans l'univers, puis de mon séjour sur la Terre, je ne demande aucune question, quoi. Aucun problème qui surgirait en moi. Je ne me préoccuperais même pas de savoir ce que je fais à bord de cet immense vaisseau spatial, puis où est-ce qu'on s'en va, et ce qu'on veut de moi. Ça n'a pas de sens. Il y en a qui disent, c'est bien plus simple de faire comme si le problème n'existait pas. Et ils se disent, ah bah, vraiment la vie est belle, vivons, laisse-nous tranquilles. Oui, vivons, mais quand même. Moi, c'est vrai que j'aime vivre. Mais je reste insatisfait. Je m'approche chaque jour d'une limite mystérieuse qui est ma mort, qui s'annonce. J'aurai 71 ans bientôt. Et malgré moi, je sais que ma vie aura un terme. Ça va finir un jour, hein? Je songe à cette loi inexorable à laquelle personne n'a échappé jusqu'à aujourd'hui, qui m'ordonne de disparaître sans que j'arrive à fixer le jour et l'heure de mon départ. Oh, il y a des saints qui l'ont su, mais c'est bien rare, ça ne me sera pas donné. Après 2 ou 3 dizaines de milliers de journées, c'est à peu près ça la vie, hein? Plus ou moins semblable à celle d'aujourd'hui, là. Nos journées se ressemblent. Après que la Terre aura tourné quelques fois autour du Soleil, je disparaîtrai comme je suis venu. Je suis sorti de l'ombre et je rentrerai dans l'ombre. Et comme je dis souvent dans des homélies, des conférences, je suis sorti du sol, je suis fait de la matière de la Terre, et je retournerai dans la Terre. Ben oui, il y a un temps où je n'existais pas, mais en avoir un autre où je ne serai plus, et avant moi, mais des milliards d'êtres ont circulé sur la planète Terre, ils ont marché, eux autres aussi, ils ont mangé, travaillé, ri, pleuré comme moi. Ils ont eu leurs maux de dents, leurs illusions, leurs cauchemars, leurs déceptions, puis une immense foule anonyme qui est née ainsi, puis qui a vécu, puis qui est morte sans laisser la moindre trace, pas plus que j'en laisserai. Pas même dans la mémoire des hommes. et tout ce passé retombé dans l'oubli. Plus rien ne bouge de ces pensées aux guerriers romains qui occupaient la Palestine au temps de Jésus. Pensez aux Francs, nos ancêtres peut-être, les armées de croisés, il y a eu peut-être des ancêtres là-dedans. Les grandes cavalcades du Moyen-Âge, les caravanes des marchands du XVIe siècle. Puis pensez aux grandes armées de Napoléon, puis aux armées de la dernière guerre. On en parle dans les livres d'histoire, ça a bougé, mais ça bouge plus, c'est étrange. Et tout ce qui remue aujourd'hui, moi, vous, etc., nous allons nous figer un jour dans une dernière attitude. On tombera en poussière et on disparaîtra, et ça devient tragique quand on y pense. Et après moi, d'autres générations vont succéder, puis elles n'existent pas encore, et cependant, elles vont défiler un jour sur la terre. Les rues de nos villes, puis quand on va dans le port de Montréal, on voit les foules. Puis les lieux de villégiature dans le nord, un peu partout, c'est plein de monde. Puis les trains, les autobus, tout va être encombré d'une foule innombrable, joyeuse et inquiète pendant tout l'été. Mais il va venir un été où je ne serai pas là pour la regarder passer, cette foule. Ils ne sauront même pas que j'ai existé. D'ailleurs, quand on meurt, on ne parle plus de nous le lendemain, à peu près. Quelle aventure! Leur indifférence me trouble. Parce qu'au fond, on se pense tous un petit peu importants. Mais quelle importance avons-nous? En attendant, je suis là dans ce moment présent. J'aurais mieux avec mon imagination le passé et l'avenir. Je suis comme un rameur assis dans une petite chaloupe. Puis, bon, ben, je rame, là. Je touche la surface de l'eau. Il y a des profondeurs mystérieuses. Et je suis là, emporté par le courant de la ville, le courant de l'eau, sachant qu'un jour, ma chaloupe va chavirer elle aussi, puis je rejoindrai dans les remous de cette rivière, les remous du passé, la foule de ceux qui m'ont précédé, puis qui sont plus. Et cependant, je sais combien cette issue fatale qu'est la mort est en flagrante contradiction avec l'aspiration profonde qui m'attache à la vie. C'est pas normal de penser qu'après la mort, il n'y a rien. On le sent au fond de nous. Moi, je le sens. Et dès lors, pourquoi mourir? Je vous cite une parole de Bossuet. C'est bien peu de choses que l'homme, et tout ce qui a faim est peu de choses. Ma vie est de 80 ans tout au plus. Oh, prenons-en 100. Qu'il y a eu un temps où je n'étais pas. Qu'il y en a où je ne serai point, et que j'occupe peu de place dans ce grand abîme du temps. Je ne suis rien. C'est Bossuet qui parle, lui, ce grand personnage. Je ne suis rien. Ce petit intervalle n'est pas capable de me distinguer du néant où il faut que j'aille. Alors je résiste, moi, à qui veut me renverser, et voilà que demain, réduit en cendres, je tiendrai dans le creux de la main d'un enfant. Je me souviens des cendres de ma mère que je tenais dans ma main en 1982 quand je les ai déposées près du corps de mon père, dans le Notre Lot, cimetière Comte des Neiges, une petite boîte. Puis il y a 3 ans, ces jours-ci, c'était au tour de mon fils aussi, dans une petite boîte, ces cendres. Oh, ils ont eu des funérailles avec leur corps, tabernacle de la Trinité dans l'église. Leur corps a été encensé, béni. Le corps de ma mère, d'où je viens, c'est la fête des mères, c'est sacré. Et le corps de mon fils, qui m'a donné un petit-fils, c'est sacré. Et chaque jour, 300 000 personnes environ, des êtres comme moi, chair et en os, qui ont comme moi une pensée, des affections, des désirs, des craintes, 300 000 personnes cessent de se mouvoir. Eh oui, aujourd'hui, on s'empresse de les enlever de la circulation, c'est normal. Ça fait 12 000 personnes à l'heure, 200 à la minute à peu près. Mais lorsqu'une bombe atomique coûte la vie à 200 000 personnes ou 300 000 personnes, nous en sommes atterrés. Mais c'est ce qui se passe tous les jours. C'est le nombre d'êtres humains qui disparaissent tous les jours, même en temps de paix. Et dans cette hécatombe, eh bien, je serai là un jour, ignoré. Pourquoi cette échéance? Alors que j'aspire à vivre, et pourquoi la mort? Et puis la mort, est-ce que c'est l'anéantissement complet de mon être? Nous, catholiques, nous le savons, ce n'est pas ça. Est-ce que la mort met réellement un terme à mon existence? Oui et non. C'est un dilemme angoissant dont je dois choisir un des termes. Question difficile s'il en est, et pourquoi souffrir? Nous sommes rendus là, voici en effet que mon corps, moi personnellement, je vieillis. C'est que mon âme aussi, au lieu de jouir en paix du peu de temps qui m'est donné de vivre, bien, mon corps et mon âme voient que la souffrance s'installe petit à petit. Je suis allé à l'hôpital encore il y a quelques jours. Puis, c'est à demeure comme ça que la souffrance s'installe. C'est aussi par intermittence, c'est pour bien des choses. Mais mes désirs, mes joies, de toute façon, vont en diminuant, ça ne m'affecte pas trop. Et je songe à tout ce que j'ai souffert physiquement depuis que je suis né, hein, il y a 70 ans. Et pour vous qui avez 40 ans ou 30 ans, vous savez que vous en avez déjà aussi souffert. Et je pense à mes angoisses, comme vous pensez sans doute aux vôtres, à mes déceptions, à mes échecs, et à mes deuils aussi. À la jalousie des uns, c'est donc fatigant, ça, la jalousie. Des gens qui nous jalousent, qui en veulent, qui nous en veulent. L'ingratitude aussi. L'absence de reconnaissance pour tout le travail qu'on peut faire. Zéro. Puis, quand on pense à toutes les luttes qu'il faut entreprendre pour continuer à vivre, et à travailler, puis à faire ce qu'on a à faire. Puis en oubliant mes misères, je songe aux souffrances des autres. Alors là, je tâche d'être aussi sensible que possible pour que mon esprit puis mon cœur recueillent un peu cet immense cri, cette clameur qui s'élève de la terre. Alors là, les souffrances physiques d'abord, quand je pense, c'est effroyable. Alors par l'imagination, je pénètre dans des milliers de cliniques et d'hôpitaux. Puis je pense à ça, là, les dispensaires, les chambres de malades. J'essaie dans mon imagination d'écouter ceux qui souffrent. Ceux qu'on soigne et ceux qu'on ne soigne pas. Des fois, je suis allé à Saint-Charles-Borromée, dans nos hôpitaux. Là. Je tâche d'entendre leurs gémissements et j'essaie de sonder leurs plaies. Je songe aussi à tous ces aveugles, j'ai des amis aveugles, mais tous ces aveugles du monde entier aussi, les sourds aussi. En imagination, je m'approche de ces gens qui sont allongés. Là. Ils sont immobilisés dans un plâtre ou je ne sais quoi, depuis un an, 5 ans, 10 ans. Ils aspirent à marcher puis à vivre comme nous, mais ils ne peuvent pas. J'essaie d'assister à l'agonie des milliers de personnes qui sont terrassées par la faim. Puis on voit ça en Afrique, à la télévision, tout ça. La mort va les visiter aujourd'hui, demain. Puis à côté de ces souffrances physiques, toutes ces souffrances, pourquoi souffrir comme ça? Je tâche de deviner les souffrances morales ou de ces malades, ces blessés, de tous ceux qui les entourent, la détresse des 300 000 familles qui aujourd'hui vont être en deuil et qui vont augmenter le nombre des foyers que la mort a frappés depuis quelques semaines, quoi, des millions. Je songe aux heures d'agonie, de tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore dans les camps de concentration, les prisons abominables, aux millions de malheureux, qui pour des raisons raciales ou autres, qu'on a déplacées en Afrique, ils appartiennent pas à la bonne ethnie, puis on les déplace. C'est terrible. On les arrache à leur sol natal. Je songe aux souffrances morales des vieillards là, délaissés dans des hospices mal entretenus. Je songe aux parents qui attendent avec angoisse le retour d'un enfant qui tarde à rentrer, j'en sais quelque chose, mon fils tardait souvent à rentrer, que d'inquiétude. Oh, je pense à ceux qui ne pourront plus assurer demain la subsistance de leur famille parce qu'ils le chômage, la perte de l'emploi. C'est tragique. Les épouses trahies, les maris trompés, les amours blessés. Les milliers d'enfants sans père, sans mère. Il n'y a aucun coin de la terre qui n'est épargné. Nulle part, on dirait qu'il y a le bonheur absolu. Et nous-mêmes, si nous connaissons dans nos vies des temps de calme, il s'y mêle toujours le souvenir de nos souffrances d'autrefois, puis la crainte de rencontrer encore la douleur. Cette douleur qui est une visiteuse muette, puis qui n'explique pas pourquoi elle vient troubler notre existence, pourquoi vivre, pourquoi souffrir, pourquoi la souffrance. Puisque personne la désire, et pourquoi vient-elle se mettre si souvent en travers de notre route, cette souffrance, pourquoi? C'est des poètes grecs qui disaient « La force de l'homme est toute petite, aucun de ses projets n'aboutit. Sa courte vie n'est que peine sur peine et la mort, l'inévitable mort, pend au-dessus de lui. C'est tragique pour les incroyants qui vivent comme ça. Il n'y a pas d'homme heureux, la douleur les frappe tous, dit selon le fameux poète grec et homme politique. Si du moins j'avais le loisir de me dire que la souffrance m'est imposée là, par des circonstances indépendantes de moi, puis que je suis innocent du tort dont je souffre et dont souffre l'humanité, mais c'est pas vrai ça. Parce que dans le secret de ma conscience, il y a un nouveau problème qui surgit, j'ai fait du mal. Je ne suis pas vraiment innocent. Je sais très bien que c'est plutôt rare que je pose un acte. Du moins, c'est comme ça pour moi, entièrement dégagé de toute arrière-pensée. Il y a toujours un peu de mal dans tous mes actes quand j'essaie de faire du bien. C'est très difficile d'être pur. Oh, c'est sûr, je veux, moi, personnellement, le bien, vous le voulez aussi, hein? Cependant, je fais le mal. Je me sens libre et enchaîné à la fois. Mais d'où provient cette espèce de désaccord en moi? Parfois aussi, je recherche positivement le mal et je me complais même en lui. Et pourquoi? Je regarde les hommes et les femmes qui m'entourent. À l'appel de ceux qui sont, exempts de toute faute, la personne n'ose se présenter. Hein? Vous avez vu ça dans l'Évangile, hein? Que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Alors pourquoi tout le monde? Nous sommes tous des pécheurs. Et pourtant, je sens intensément, comme tant d'autres, la joie qu'il y aurait à ne pas augmenter par mes fautes l'état de souffrance qui règne dans le monde, à ne semer qu'à la joie, à n'être qu'un homme de bien, à ne pas augmenter mes souffrances par mes péchés. Alors pourquoi mal agir? Ce sont des problèmes troublants, des problèmes que personne n'oserait comparer aux problèmes, évidemment, de mathématiques, de géométrie, qui n'ont aucune répercussion sur ma vie, en fait, hein? C'est Pédouze qui disait, c'était très beau, je me souviens de cette parole quand j'étais jeune, « La jeunesse angoissée tourne vers vous ses regards, parce qu'elle aspire vers une synthèse intellectuelle qui donnera un sens et un ordre à toute sa vie. Tant qu'il n'y aura pas une réponse définitive, dit Pédouze, et adéquate aux questions « Quel est le sens de la vie, le sens de la douleur, le sens de la mort ?» on gardera l'impression de voir le sol se dérober sous ses pieds. N'allons pas chercher midi à 14 heures pour savoir pourquoi nos jeunes se suicident, pourquoi nos vieillards se suicident, pourquoi il y a tant de dépressions nerveuses et de découragement. Le pape Pie XII l'a très bien expliqué. Tant qu'il n'y aura pas une réponse définitive et adéquate aux questions « Quel est le sens de la vie, le sens de la douleur, le sens de la mort ?» on gardera l'impression de voir le sol se dérober sous ses pieds. Il y a quelqu'un qui disait aussi « La soif d'exister davantage fait le fond de l'angoisse humaine, de notre angoisse vitale. Jamais cette soif d'être et cette angoisse du néant n'ont été plus violentes que de nos jours. » Cette soif et cette angoisse du néant s'expriment par la ruée présente vers toutes les formes de pensée. Les grands courants de l'art actuel, souvent très absurdes, les sectes abracadabrantes, les idées farfelues. Non, il s'agit ici de questions très personnelles et très naturelles, et c'est moi qui vis, moi qui mourrai, moi qui souffre ou souffrirai, c'est moi qui fais le mal. C'est moi que cela regarde, et je consacre même, à l'objet de ces problèmes, vie, mort, souffrance et mal, la plus grande partie de mon activité. Je tâche de rester en vie, c'est clair, tout le monde fait ça, même sans croire. Je m'efforce de retarder l'échéance de ma mort, c'est pas nécessaire de croire pour ça. On nous dit qu'il faut manger ceci, il faut faire cet exercice-là, il faut faire ci, il faut faire du tai chi, etc. Je fuis la souffrance, hein, il faut prendre des vitamines, il faut prendre ci, il faut faire attention à ça. Et aussi, bien, je fuis le mal. On essaie de ne pas faire le mal parce que ça nous rend coupables. Il y a quelqu'un qui a écrit ceci dans Le problème de la vie. Le problème de la vie consiste essentiellement dans la contradiction violente, incompréhensible et douloureusement sentie, qui existe entre la vie telle que l'homme la désire et la vie telle qu'elle est. Et ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est précisément que la vie constitue pour lui un problème. On peut dire qu'il n'est véritablement homme ou femme que le jour où ce problème lui apparaît. Si nos enfants le savaient, s'ils le sentaient, si nous ne le traduisions dans leur oreille, doucement, avec un grand sentiment de grand-père, de grand-mère, de père ou de mère. Si j'ai assez d'esprit et de cœur, je songerai que ces problèmes se posent dans la vie de ceux qui m'entourent, de ceux que j'aime, et que la meilleure chose que j'ai à faire, c'est d'aider les autres à les résoudre, ces problèmes. Et ce qui me surprend, c'est qu'il y a tant de gens qui ne cherchent pas à les résoudre, ces problèmes, c'est peut-être à cause de leur éducation. Ils n'ont pas entendu poser le problème, ni dans leur famille, ni durant leurs années de formation. Il y a certaines personnes, par ailleurs, douées d'intelligence, qui ne sont jamais demandé pourquoi elles vivaient. Elles obéissent instinctivement à leur conscience, puis elles mènent souvent une vie irréprochable, toute de travail, puis de dévouement même. Et ces personnes, je crois, méritent tout notre respect, au fond. Et il n'y a pas lieu de s'étonner que le jour où le problème se pose devant elles, ces âmes admettent, sans beaucoup d'hésitation, il me semble, que Dieu existe et qu'il a des projets. Il y a des gens qui n'y pensent pas à cause de leur légèreté. Il y a la foule de ceux qui ont pris conscience du problème mais qui ne se soucient pas de lui apporter une solution intelligente, claire et complète. Vous savez, si on arrêtait les passants, j'ai déjà fait ça quand je faisais de la télévision, on arrête les passants sur le trottoir pour les questionner, les trottoirs à Montréal ou ailleurs, là, pour leur demander s'ils ont réfléchi au but de leur existence puis quelle solution ils ont choisi, il y en a beaucoup qui me prendraient pour un achalant, pour un illuminé, pour un crackpot. Ils passeraient leur chemin en haussant les épaules. Mais si je leur demandais dans quelle direction se trouve la gare centrale, là, ils ont, mon Dieu, c'est plus empressé de me l'indiquer. C'est illogique. Ils sont prêts à me fournir un renseignement absolument secondaire, mais sur le pourquoi de leur existence, ils restent bouche bée. Et ce qui est plus grave, ils sont indifférents. C'est le père Doncœur qui disait, Paul Doncœur, le désarroi où sont plongés les hommes vient de ce que le soir, ils ne savent pas pourquoi ils se sont levés et pourquoi demain ils vont recommencer. C'est très vrai. Cependant, il faut vivre. Et dès lors, tout homme, toute femme doit choisir une attitude pratique devant le problème de la vie. Quelle sera l'attitude pratique de ces indifférents? Souvent, ce sera celle que leur dit, quoi, l'intérêt ou le caprice. Ils n'ont pas réfléchi, là, personnellement, là, à la vie. Alors, ils empruntent en gauche et à droite, là, des petits lambeaux de doctrine. Hein. On les voit dans les petites librairies, là, c'est rempli de livres, de toutes sortes de petites doctrines. Alors, ils les assemblent grossièrement. Puis, ils ont souvent l'air étrange avec tout ça. Pensez à l'ordre du temple solaire et à toutes sortes de choses comme ça. C'est insensé, ça fait pitié. Et des hommes intelligents, des gens brillants qui se laissent prendre. Des gens merveilleux. Comment ça se fait à tout moment, là, ces gens-là, on pourrait dire, modifient leur costume, on peut dire, pour s'adapter au goût du jour, puis à leur fantaisie. Et c'est ainsi qu'ils sont tantôt, on peut dire, catholiques, tantôt protestants, puis aujourd'hui membres d'une secte, puis d'une autre. Bon, catholiques parce que la tradition de famille, les convenances, l'exigent. Et c'est tout. Puis protestants parce qu'ils jugent qu'il faut protester contre certaines mesures de l'Église catholique à laquelle, pourtant, plusieurs d'entre eux désireraient peut-être appartenir. Alors voilà que ces gens sont tout mêlés, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui évitent de chercher une solution quand on dit pourquoi vivre, pourquoi souffrir, parce qu'ils se rendent compte que la vérité, s'ils la trouvaient, ça entraînerait avec elle des exigences morales, qui leur font peur. Hein? Ils se sont confrontés avec ça au moment de l'adolescence, de la jeunesse. Ils ne veulent pas revenir là-dessus. Puis il y a ceux qui fuient la question, là, à cause de leurs préoccupations matérielles. Il y a aussi ceux qui cherchent puis ne trouvent pas. Hein? Je pense à tous ceux qui aiment la vérité, qui aspirent à la trouver, et qui sont prêts même à lui sacrifier ce qu'ils possèdent, mais ils ne l'ont pas encore découverte. Hein? Parce que des âmes foncièrement honnêtes, qui sans accepter ou même connaître la solution catholique, vivent selon les règles les plus strictes de la morale naturelle, ils donnent autour d'eux là, les plus beaux exemples de travail, de justice, de charité. Sans s'en rendre compte, ces âmes bénéficient souvent de 20 siècles de christianisme. J'ai un grand ami, un de mes meilleurs amis qui est comme ça. Il se dit athée, et pourtant... C'est le père Yves de Montcheuil qui disait « Il est possible, sans adhérer à l'Église, de bénéficier de l'influence qu'elle exerce. certaines âmes profitent de la chaleur d'un foyer dont elles refusent de reconnaître l'existence. Le père Edmond Chase, un jour je vous ferai une belle émission sur lui, c'est un très grand prêtre de ce siècle. Inutile de dire que ces gens-là méritent toute notre admiration et notre estime. J'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour mon ami athée. Mais parfois, ce sont les croyants eux-mêmes qui, par leur vie peu conforme à leurs croyances, ou par des manifestations intempestives et ridicules de leur foi, maintiennent ce que j'appellerais les chercheurs de la vérité. Ils les maintiennent dans le doute puis l'indécision. Nous, catholiques, nous leur donnons de notre foi souvent l'impression qu'elle n'est qu'un ensemble de superstitions, puis de pratiques absolument insensées, sentimentales et ridicules. À côté de ces âmes qui se sont imposées une loi morale très stricte, on en rencontre d'autres qui cherchent la vérité, elles aussi, mais qui, faute de la saisir, s'abandonnent à toutes sortes de déchéances morales. Pensez à Adolphe Rété, dont je vous ai parlé le 9 décembre 1996, il n'y a pas si longtemps. Charles de Foucault, dont je vous ai parlé le 1er décembre 1995 et dont je vous reparlerai le 1er décembre prochain. Une existence très peu digne durant de longues années que ces deux hommes ont eu. Et pourtant, au milieu de leur débauche, ils aspiraient encore à trouver la vérité. Puis le jour où ils l'ont rencontrée, ils ont tout sacrifié pour la suivre. Oui, aujourd'hui, c'est plein de Rété, d'Adolphe Rété, d'autres Charles de Foucault. Ils vivent là, dans leurs années d'impiété, d'immoralité autour de nous. On peut condamner leurs actes, mais sachons reconnaître leur générosité foncière, car Adolphe Rété et Charles de Foucault étaient généreux et honnêtes. Quelqu'un qui cherche, même si ses attitudes sont tout à fait opposées aux nôtres, moi, je le trouve bien plus attachant que celui qui s'est arrangé une petite vie honnête de catholique plat, qui n'aurait même pas le courage de changer pour le mieux. Ils disent en fait au Christ, « Assis-toi, puis laisse-moi tranquille. Je suis allé te voir dimanche matin, laisse-moi tranquille. Parle-moi pas de l'Évangile, parle-moi pas de ça. Je suis bien. » C'est effrayant. Pensez à Élisabeth Le Sœur, dont je vous ai fait une émission le 21 février dernier. Dans son journal, on lit ça. « Je veux aimer d'un amour particulier ceux que leur naissance, leur religion ou leurs idées éloignent de moi. Ce sont ceux-là surtout que j'ai besoin de comprendre. » Puis il y a ceux qui ont cherché puis qui disent avoir trouvé. Mais quelle doctrine choisir? Quels sont les critériums? Comment savoir? Qu'est-ce qu'il faut? Une doctrine qui se trouverait dans l'incapacité de nous satisfaire porte en elle sa condamnation. C'est le chanoine Leclerc, dans un beau livre de la Providence, de la souffrance et de la vie, publié il y a très longtemps. « Nul ne résout l'énigme de la vie s'il n'a résolu le problème de la souffrance, et parce que le chrétien est seul à pouvoir le résoudre, il est seul à pouvoir comprendre la vie. » Mais il ne faut pas s'étonner si la solution cherchée présente une certaine complexité, car la vie elle-même comporte des aspects très divers. Hein? Alors, dans ce domaine, il y a place pour toutes sortes de subterfuges. Hein? C'est pas malaisé, par exemple, de satisfaire ceux qui jouissent de la fortune et de la santé, mais la solution ne sera vraie que si elle convient à tous, sans exception. Il faut que la solution qu'on apporte convienne aux riches comme aux pauvres, aux intellectuels comme aux moins doués, aux jeunes comme aux vieux, aux bien portants puis aux mal portants. Elle doit convenir, disons, à une ménagère comme à un millionnaire, pouvoir être présentée avec succès à l'homme d'affaires comme au paralytique. Et c'est ça qu'on trouve dans le catholicisme. Cette solution doit pouvoir être prêchée intégralement, en temps de guerre comme en temps de paix, puis dans la prospérité comme dans l'adversité. Cette solution doit s'adapter parfaitement aux joies, puis aux difficultés de la vie. Que je sois maître de mes mouvements ou bien injustement jeté en prison, comblé de biens matériels ou réduit à la misère. Une solution qu'il faudrait abandonner à telle époque de sa vie, aux approches de la mort par exemple, parce qu'elle ne convient plus en cette circonstance, une telle solution signerait par le fait même sa condamnation, et c'est pas la solution catholique. Elle n'est pas comme ça. On ne peut évidemment pas examiner toutes les solutions proposées. pour montrer que la solution chrétienne catholique soutient, à mon avis, l'épreuve. C'est, je pense, et je le crois du fond de mon cœur, la meilleure solution. Elle apporte en effet une explication à la vie qui coïncide parfaitement avec la réalité, sans méconnaître aucun de ses aspects importants. Elle peut être présentée à tout homme de bonne volonté, quel que soit son âge ou sa condition. Elle s'adapte parfaitement aux circonstances de toute vie humaine. Elle n'a pas besoin d'être corrigée pour en suivre les vicissitudes. Et pour prouver cela, il va suffire de faire un exposé plus tard clair et loyal de la doctrine catholique. Pensez à Jacques Rivière, je vous ai fait une émission sur lui le 14 février 1996. Il disait, « Moi, c'est pour comprendre que je suis devenu catholique. » Je pense aussi à cette phrase, « Si je n'étais pas catholique de conviction, je voudrais l'être, rien que pour avoir un balcon d'où je pourrais regarder ces idées modernes malades et anémiées. » Mais soyons sérieux, prenons la parole de Gustave Thibon. « Pourquoi je suis chrétien ? Parce que je sens que l'aventure humaine débouche sur autre chose qu'un creux désespoir, une creuse interrogation ou une creuse insouciance. Et comment fait-on pour trouver cette religion chrétienne? Mais c'est en lisant d'abord les évangiles, mais je vous expliquerai ça dans d'autres émissions. Au moment de l'ascension, le Christ remonte aux cieux. C'est dimanche qu'on fait ça. Par ton ascension, Seigneur Jésus, tu nous montres l'orientation définitive de notre vie. Et nous devons sans cesse garder nos regards fixés vers le ciel et vivre dans l'espérance de l'accomplissement de tes promesses. Mais cette attente n'est pas pour nous une passivité. Tu nous invites à anticiper ton royaume sur cette terre, à le manifester aux hommes en proclamant la bonne nouvelle de ta résurrection et de ton salut et de ta libération. Donne-nous toujours plus d'audace pour parler de toi. Et renouvelle ton Église catholique, dans l'ardeur missionnaire, dans le saint désir que tout homme, toute femme te connaisse et t'adore, toi le seul et unique sauveur. Élargis nos cœurs aux dimensions de ton amour et donne-nous ta soif des âmes, pour que tous croient en toi et reçoivent la vie éternelle et sachent pourquoi ils vivent, pourquoi ils souffrent, et pourquoi la vie est belle, et pourquoi finalement, tout est digne d'action de grâce, toujours et en tout lieu. Amen.